France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Le 9 décembre prochain, nous célébrerons l'anniversaire des 120 ans de la loi de 1905 qui a marqué la séparation des églises et de l'État. Cette commémoration survient dans un contexte pour le moins paradoxal, où la laïcité s'impose comme un concept à la fois fédérateur et clivant dans notre débat public. D'une part, elle fait l'objet d'une unanimité dont peu de signifiants peuvent se prévaloir. Tout le monde ou presque s'en réclame, aucun parti politique et peu d'intellectuels ne la rejettent frontalement. Pourtant, dès qu'on parle de sa définition et de son application concrète, son interprétation se retrouve au cœur d'une équivoque majeure. La laïcité doit-elle s'appliquer exclusivement à l'État ou à chacun de nous? Impose-t-elle une neutralité aux seuls agents des services publics ou aussi à leurs usagers? Par laïcité, entendons-nous simplement un principe juridique de neutralité absolue, garant de la liberté de conscience, de la coexistence pacifique des croyances, ainsi que de la séparation stricte du politique et du théologique, ou bien une valeur qui porte en elle une vision plus offensive de la société, tenant la religion à distance et privilégiant le doute raisonné aux appels du ciel. Toutes ces alternatives reviennent au fond à se demander dans quelle mesure cette notion, qui s'est retrouvée au cœur de nombreuses polémiques à travers notre histoire, peut encore nous rassembler. La laïcité, peut-on dépasser les controverses? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du philosophe Henri Pénaruise, du sociologue Alain Policard et de la journaliste Anne Rosenchère.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Bonjour Henri Pénaruise.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, auteur de nombreux ouvrages, dont le dictionnaire amoureux de la laïcité aux éditions Plon. Bonjour Alain Policard.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po et auteur aussi de nombreux ouvrages, dont Laïcité, le grand malentendu, paru en octobre aux éditions Flammarion. Et bonjour Anne Rosenchère.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directrice déléguée de la rédaction à l'Express et auteur notamment d'un Chagrin français aux éditions de l'Observatoire. Alors quand on a préparé cette émission sur la dialectique entre l'unanimité et les controverses que suscite le mot de laïcité, on avait deux options, on hésitait. Une option chronologique, partir d'abord des origines de cette loi pour voir ce qu'il en advient aujourd'hui, ou une option, je dirais, anti-chronologique, partir d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, notamment, et c'est le point de départ que je voulais vous soumettre, un certain nombre d'études, depuis ces dernières années, qui ont pu montrer que le rapport entretenu par la jeunesse française vis-à-vis de la laïcité avait peut-être un petit peu évolué par rapport aux dernières décennies. Je cite un rapport de la Fondation Jean Jaurès en mars 2024, qui nous enseigne, premièrement quand même, que la laïcité fait toujours l'objet d'une forme d'unanimité. Pour 89% des jeunes de 18 à 30 ans, la laïcité est un terme qu'ils ont l'impression de bien connaître et de comprendre, et la moitié dit qu'ils la connaissent tout à fait et extrêmement bien. Mais l'interprétation de cette laïcité est plus équivoque, parce que certains définissent la laïcité, 27%, comme le fait de mettre les religions sur un pied d'égalité, pour 27% assurer la liberté de conscience, pour d'autres de faire reculer l'influence des religions dans la société, etc. Et on observe quand même, je cite une étude Via Voice de 2021, un recul de l'attachement à la laïcité. 65% des 18-24 ans se déclaraient attachés au principe de la laïcité tel qu'ainsi défini par le droit, contre 85 ans des 65 ans et plus. Anne Rosenchère, est-ce qu'il y a une fracture générationnelle aujourd'hui autour de cette notion de laïcité?
Alors fracture, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est vrai, c'est que quand on observe les sentiments des sondés, on va dire, envers non pas le terme de laïcité lui-même, parce que vous aviez raison de dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses, beaucoup de définitions, beaucoup définitions propres, des gens qui s'inventent des définitions. Mais je dirais que sur ce qui est notamment l'idée de ce principe de coexistence moyennant la mise de côté des prétentions politiques, des religions et des signes d'appartenance ostentatoires, on va dire, les jeunes en pincent moins pour la laïcité parce que, je dirais, il y a deux raisons essentielles. Bon, la première, on l'a beaucoup dit, beaucoup renseigné au cours des dernières années, un retour des prétentions politiques de la religion et notamment de l'islam via l'islamisme qui est vraiment la prétention politique de l'islam. Tous les musulmans, bien entendu, ne sont pas à mettre chiffres dedans. Et on le voit notamment dans le dernier sondage de l'IFOP qui a fait couler tant d'encre, où ils ont montré que, si vous voulez, au cours des 20-30 dernières années, la proportion de ceux qui répondaient que les lois de la religion primaient selon eux sur les lois de la République française avait augmenté. Voilà, c'est-à-dire qu'avant, c'était même pas 30-25%, et maintenant, on s'approche des 40 et quelques pourcents. Donc, cette définition, je dirais là, c'est là où on entre en confrontation avec la laïcité, quand on considère que les prescriptions de son particularisme doivent s'appliquer au-delà de la norme et de la loi de la République française. Je dirais qu'il y a une deuxième tendance qui fait que les jeunes en pincent moins pour notre définition de la laïcité à la française, c'est l'américanisation ou la façon un peu anglo-saxonne de voir les choses, qui est assez multiculturaliste, voire parfois communautariste, où chacun fait un peu comme il veut, où le respect des différences est absolument sacralisé, au détriment, je dirais, du droit d'être différent de sa différence, qui était quand même aussi l'idée de la laïcité, notamment au sein de l'école, pour reprendre la formule qui était dans le manifeste des intellectuels au moment de l'affaire du voile de Creil, sur laquelle on reviendra peut-être. Une fois que j'ai dit ça, ces deux grandes tendances qui, à mon avis, font qu'en effet, une partie de la jeunesse est un peu plus en pince moins pour la laïcité à la française, il faut... pour moi, ne pas paniquer, d'abord parce que la laïcité est un magnifique principe qui, je pense, a beaucoup de choses pour elle, pour peu qu'on l'explique bien, qu'on soit à la fois humaniste dans la façon de l'expliquer, mais très claire et très ferme. Je pense que moins on est ferme, il y a quelque chose d'ébolliant qui lui arrive. Donc ça, d'abord, j'ai la foi en la laïcité, si on peut dire. Et ensuite, je pense qu'il y avait un autre sondage de l'IFOP qui n'avait pas fait beaucoup coller d'encre, mais qui est extrêmement intéressant, qui a suivi la cohorte des jeunes qui avaient entre 18 et 24 ans au moment de la commission Stasi. Vous savez, c'est cette commission qui a accouché sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Et ils ont suivi ce que pensaient ces jeunes de 18-24 ans au moment de la commission de Stasi. Et là, ils étaient une toute petite majorité à être en faveur de l'interdiction des signes ostentatoires à l'école. Ils étaient 52%, donc c'était en 2005, d'accord ? Et ils ont suivi ce que pensaient ces mêmes jeunes, devenus un peu plus vieux, 20 ans plus tard. Et là, vous avez 82% des mêmes qui sont en faveur de l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école. Ça veut dire que quelque part, plus on vieillit, plus on part parfois du manichéisme qui est beau, mais qui est parfois propre à la vision du monde quand on est jeune, et plus finalement on comprend la beauté de la laïcité, même si elle est parfois un peu plus complexe à expliquer que le seul respect et le seul droit à la différence.
Alain Policard, est-ce que vous partagez ce constat, cette idée qu'il faudrait peut-être un peu nuancer cette idée d'une fracture générationnelle et que c'est peut-être plus une différence d'âge que de génération ?
Je partage en tout cas l'attachement d'Indre aux Enchères à la laïcité. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur système. La laïcité, c'est la coexistence des libertés. Mais sur un certain nombre de chiffres qui ont été cités, peut-être que l'interprétation sera légèrement différente de ma part, parce que entre les deux dates que vous avez citées, il y a tout de même eu des attentats. Et que peut-être les attentats ont raidi les positions des uns et des autres et ont accentué, si vous voulez, un soupçon sur lequel nous reviendrons nécessairement, puisque cet amalgame entre les musulmans en général et ceux qui deviennent des séparatistes, comme la loi de 2021 les accuse de devoir le devenir, ou des multiculturalistes et des communautaristes. En fait, on mélange un petit peu peut-être les termes, parce que le multiculturalisme en France, la commission Stasi elle-même, dont Henri Pénard-Ruiz était membre, il pourra confirmer, parler d'accommodement raisonnable, c'est-à-dire ce qui est caractéristique même du multiculturalisme tel qu'on le voit, Et le communautarisme, en fait, ça suppose l'interdiction du droit de sortie. Et au fond, il y a peu de communautés en France, excepté des sectes religieuses obscurantistes, c'est presque un pléonasme, dans lesquelles le droit de sortie n'est pas possible. Donc le communautarisme est souvent un mot qui fonctionne comme une sorte d'opérateur d'illégitimation, mais au fond, le contenu n'est pas extrêmement précis. En fait, en réalité, on ne veut pas d'un système multiculturel à l'anglo-saxon, parce que, comme l'a dit Anne Rosenchère, on valorise à l'excès la différence. Mais entre reconnaître la différence culturelle et lui attribuer un sort dont nous pourrons discuter, et la valoriser à l'excès, il y a une nuance. Il est évident que la valorisation à l'excès, c'est supposer renoncer à ce qui fait notre commune humanité. Il n'est pas question que la différence collective devienne effectivement le facteur fondamental du droit. Ce qu'on doit attendre, effectivement, et là je crois qu'on pourrait parler du problème de l'intégration, ce qu'on doit attendre, c'est le respect des principes républicains, pas autre chose, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. On ne doit pas attendre l'assimilation, comme certains le disent encore, comme le Rassemblement national le dit, comme j'ai entendu encore récemment Henri Guénaud le dire. L'assimilation, c'est, au fond, le fait que tout le monde est exactement le même que le pays d'accueil le souhaiterait, ce qui n'est pas, à mon avis, un désir raisonnable. La valeur de la diversité, comme John Stuart Mill le disait, c'est le meilleur moyen de précisément aller vers la vérité. Et il me semble que de ce point de vue-là, les Français ont un problème qui est de plus en plus croissant. Certainement que les attentats y sont pour beaucoup, hein, mais un problème avec précisément l'altérité.
Henri Pénard-Ruiz, est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être aussi le signe que la laïcité est moins bien définie, moins clairement comprise par les jeunes générations et peut-être par l'ensemble des citoyens ?
Écoutez, il est clair qu'il y a une véritable offensive contre la laïcité de la part des milieux intégristes, c'est clair, notamment à l'école. Qu'en face de cela, l'État doit être très ferme. Il ne le fut pas pour Samuel Paty, d'où l'obligation de sa sœur, Michaela Paty, de rappeler les choses dans un procès. Par exemple, il faut rappeler que Samuel Paty, son nom, sa quasi-résidence a été diffusée dans les réseaux sociaux. Il aurait dû être mis immédiatement sous protection policière dès que ça a été fait. Donc effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame, je souscris à ce que dit M. Policar, il n'y a pas d'amalgame entre les islamistes qui veulent faire une politique effectivement à partir de la religion et souvent de façon très rétrograde, notamment en ce qui concerne le statut de la femme. L'interprétation littérale du Coran, par exemple, dans la lecture que l'on fait de ce texte, dit « La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. Donc, la femme n'est pas juridiquement l'égale de l'homme. » Et malheureusement, cette mise en œuvre de cette interprétation est tout à fait dommageable pour la femme. Alors, ce qui fait que la laïcité peut paraître quelquefois très, très exigeante, c'est le fait qu'elle est un principe d'émancipation. Elle est un principe d'émancipation, c'est-à-dire qu'elle aide à sortir de la dépendance. Et je crois qu'il faut rappeler ce principe. La laïcité, certes, défend la liberté de conscience, l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, ça c'est évident, mais elle est aussi un levier d'émancipation. Je voudrais faire remarquer à M. Policar, à propos de son affirmation erronée, qu'il n'a jamais été question de valoriser les accommodements raisonnables dans la commission Stasi auquel j'ai appartenu. Les accommodements raisonnables, ce sont des trahisons. On dit par exemple que le fait de financer sur fonds publics des écoles privées religieuses qui font du prosélytisme, ce serait un accommodement raisonnable. Je m'inscris en faux contre cela. C'est une vraie trahison de la laïcité. Alors maintenant, évidemment, la définition de la laïcité est pourtant très simple. Moi, je trouve qu'elle est assez simple. Et ne mélangeons pas multiculturel et multiculturaliste. La France est à l'évidence une nation multiculturelle. Mais il ne faut pas qu'elle devienne multiculturaliste, parce que qu'est-ce que ça veut dire, le multiculturalisme ? Ça veut dire que chacun est chez soi. Chacun applique la règle de sa communauté. Tarek Ramadan disait à Fadela Amara, tu trahis ta culture. Mais qu'est-ce qu'il entendait par culture ? Il entendait la soumission littérale à la loi coranique. Or, la culture, c'est autre chose. C'est le dépassement critique de ce qui est rétrograde. Et donc, on a là, effectivement, un exemple des enjeux. La laïcité doit régler le problème de la coexistence des différentes confessions, des différentes options spirituelles. Et je trouve qu'elle le fait admirablement. Je rejoins entièrement ce que disait Anne à l'instant.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Alors, puisque la controverse naissait déjà dans notre conversation autour de la fameuse commission Stasi, nous peut-être poursuivons ce retour, enfin ce voyage dans le temps et ce retour vers le passé. En l'occurrence, une date qui a marqué un moment où la laïcité est devenue un objet de controverse dans le débat public français. Ce n'est pas la seule date, bien sûr, mais c'est une date importante. 1989, l'affaire dite du voile de Creil. Trois collégiennes musulmanes qui arrivent dans un collège à Creil avec un foulard islamique sur la tête. Une controverse d'abord politique naît de cela, et le ministre de l'époque, Lionel Jospin, s'était exprimé à ce sujet.
Je crois qu'il faut veiller à deux principes. D'abord, veiller à la laïcité de l'école, qui doit être une école de tolérance où on n'affiche pas de façon spectaculaire, ostentatoire, les signes de son appartenance religieuse. Mais il faut veiller aussi à un autre principe, qui est que l'école est faite pour accueillir les enfants, pas pour les exclure. Et donc, moi, je suis contre l'exclusion des enfants pour ces motifs. Donc comment réconcilier ces deux principes quand il y a problème ? Par le dialogue, par la discussion. C'est ce que j'ai préconisé immédiatement. Mais l'école, c'est un lieu d'accueil. C'est pas un lieu d'exclusion.
Alain Policard, dans votre ouvrage « Laïcité, le grand malentendu », alors vous dites que c'est peut-être aussi un biais orienté de donner de l'importance exclusive à cette date, parce qu'il y a eu d'autres dates très importantes dans l'histoire de la laïcité, mais vous faites quand même remarquer que cette date et ses conséquences ont marqué une forme de reniement, selon vous, de l'esprit de la loi de 1905, et un retour de, je vous cite, la laïcité autoritaire et intégraliste, prônée jadis notamment par Combes.
Oui, enfin, je voudrais quand même revenir sur ce que Henri Pénard-Ruiz a dit. À la page 16 du rapport Stasi, on trouve bel et bien l'expression « accommodement raisonnable et de façon favorable ». Alors, il l'a peut-être oublié. Bah, écoutez,
c'est archi faux.
Alors nous vérifierons et les éditeurs seront invités à vérifier. C'est bien écrit. Et le rapport est disponible sur,
désolé, sur le net. Cette commission, on n'a jamais approuvé l'idée d'accommodement raisonnable.
Mais d'autres que vous étaient membres de la commission. Ah, oui. Et de toute façon, le problème n'est pas d'être membre de la commission. Le problème est que le texte est là et que chacun peut vérifier. Peu importe, vous êtes opposé aux accommodements raisonnables. J'y suis favorable parce que nous sommes dans une situation de neutralité de statu quo où, précisément, il y a une sorte de biais majoritaire, j'emploie l'expression de biais majoritaire, j'emprunte à Cécile Laborde, il y a une situation qui n'est pas une situation d'égalité civique. Concernant la façon dont Henri Pénard-Ruiz a parlé de ce qui était essentiel, c'est-à-dire un principe d'émancipation, on est là au cœur de la difficulté, parce que je ne nie pas qu'on puisse voir dans la philosophie de la laïcité qui est extraite, qui dépend de celle des Lumières et de la Révolution, l'idée d'émancipation, mais il a tendance à relativiser ce qui est le nœud fondamental du problème, la liberté de conscience. Et en disant, certes, il y a la liberté de conscience. Non, c'est pas certes, il y a la liberté de conscience. Il y a d'abord et avant tout la liberté de conscience qui signifie la libre expression de l'opinion religieuse ou autre d'ailleurs, dans l'espace public, contrairement à ce que beaucoup disent. Donc la liberté de conscience, ça va jusqu'à la liberté d'expression. On dit également, enfin Henri Pénard-Ruiz dit également, pas d'amalgame, je suis d'accord avec M. Policard, mais en fait il ne fait que ça. Hein. Le soupçon sur l'islam est permanent, on parle de ce que... pas sur l'islamisme, puisque c'est de l'islam dont vous avez parlé
non, mais
à propos
il...
de...
Il ne fait que cela qui est le il que vous désignez.
Mais vous, je parle de vous. Mais
c'est scandaleux.
Mais c'est pas scandaleux.
J'ai dit tout à l'heure explicitement, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'ensemble des musulmans et les terroristes islamistes.
Mais vous le faites. Parce que vous attaquez l'islam en disant...
Vous n'êtes pas honnête sur ce plan-là.
Peut-être juste, si je peux terminer et vous répondez.
Non, mais je dis simplement que quand on dit que l'islam a une attitude négative par rapport à l'égalité des droits...
Qui dit ça?
Mais vous l'avez dit il y a un instant.
L'islamisme, monsieur, devez faire la distinction entre l'islamisme et l'islam.
Mais je pense que vous avez dit l'islam. Maintenant, l'islamisme... Qu'est-ce que c'est l'islamisme?
Non, mais vous inventez des choses. Vous vous acharnez sur une caricature. C'est pas bien.
Oui, ça c'est classique comme reproche, je me l'avais fait assez souvent, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de ça ici. L'offensive contre des milieux intégristes contre l'école, cette offensive, je ne nie pas qu'elle ait pu avoir lieu, mais en revanche, je pense que les moyens de la combattre ne sont certainement pas ceux que les pouvoirs publics ont privilégiés. On y reviendra sans doute.
Alors... Justement, à la suite de cette affaire dite du voile de Creil en 1989, beaucoup d'intellectuels s'étaient exprimés à ce sujet. Régis Debray avait signé dans l'Obs un texte qui s'appelait « Êtes-vous démocrate ou républicain ?» où il disait en substance « Il y a deux lectures possibles de la laïcité ». J'aimerais juste lire un tout petit extrait de ce texte de Régis Debray. « La laïcité n'a pas sa raison en elle-même. S'y arrêter ou s'en obséder, c'est la ruiner à terme. » Elle n'est qu'un effet secondaire et dérivé d'un principe d'organisation. La clé de voûte de ce pilier n'est pas la démocratie, rarement laïque, mais la République qui l'est nécessairement. En République, l'État est libre de toute emprise religieuse. En démocratie, les églises sont libres de toute emprise étatique. Henri Pénard-Huys, est-ce que c'est ça pour vous, la distinction, une laïcité dite républicaine et une laïcité dite démocrate? Est-ce que vous seriez d'accord avec ces termes-là de la controverse?
Je ne les opposerai pas. Je suis plutôt du côté de l'affirmation de Régis Debray, mais pour ma part, je n'aurais jamais l'idée d'opposer la démocratie et la République. La démocratie, selon l'étymologie grecque, c'est le pouvoir reconnu au peuple. Le peuple se donne à lui-même sa propre loi. En ce sens, la Révolution française a permis à la démocratie d'advenir, puisque alors que la France d'Ancien Régime était appelée la fille aînée de l'Église par les papes, elle est devenue une communauté de droit avec un peuple qui se donne à lui-même sa propre loi. Cette mutation universaliste est extraordinaire, puisqu'elle donne à la nation le sens d'une communauté, disons, éthico-politique et juridique. Et c'est ça qui me semble important. Alors dans Res Publica, il y a la chose commune. Le bien commun à tous. Sur quoi peut-on fonder le bien commun à tous? La Révolution répond encore, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, le bien commun à tous, c'est effectivement la possibilité pour le peuple de se donner à lui-même des lois d'intérêt général. Et d'ailleurs, l'article 10 de la très belle déclaration du 26 août 1789 dit « Nul ne pourra être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». Et c'est là que commence déjà la laïcisation. C'est-à-dire que désormais, la liberté de conscience devient le principe majeur. Ce n'est plus seulement la tolérance, comme disait Mirabeau. Je ne demande pas seulement la tolérance, car qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère. Louis XIV n'a pas toléré la tolérance d'Henri IV. Et par l'édit de Fontainebleau, il a abrogé l'édit de Nantes. Mais effectivement, la liberté de conscience devient un principe fondamental. Donc je pense que dans une société multiculturelle comme la nôtre, moi-même je suis issu de famille espagnole, comment faire vivre ensemble des personnes qui ont des traditions diverses? La réponse laïque est limpide, elle est simple. On les fait vivre ensemble dans un cadre juridique fondé sur les droits de l'être humain. Liberté de conscience, égalité de droits de toutes les convictions et union de tous par l'intérêt général. D'où la distinction privé-public. La religion est une affaire privée. Elle doit effectivement être traitée comme telle. Elle restera libre dans un pays laïque. Je dirais d'ailleurs, pour résumer tout cela, une formule qui me paraît simple. Dans la grande différence entre un pays laïque et un pays théocratique, c'est-à-dire fondé sur le pouvoir reconnu à Dieu ou à ses représentants, c'est que dans un pays laïque, il y a de la place pour tout le monde. En France, il y a de la place pour tout le monde, pour les divers croyants, pour les athées, pour les agnostiques. En Iran, il n'y avait pas de place pour cette malheureuse Mahsa Amini, qui a été tuée par la police des mœurs, il y a 3 ans, parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile.
Alors, Anne Rosenchère, justement, dans votre livre « Un chagrin français », vous consacrez tout un chapitre à la manière dont le voile est devenu un objet de débat, et de débat particulier, plus que sur les autres religions dans le débat public, et vous décrivez l'échec total du débat public là-dessus, les amalgames dans un sens et dans l'autre, les insultes qu'il y a eu vis-à-vis des intellectuels. Est-ce que vous pensez que c'est le moment où la notion de laïcité s'est mise à être définie de façon beaucoup moins rigoureuse, confuse et donc intrinsèquement polémique ?
Juste sur le voile, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a des polémiques énormes, c'est que c'est un sujet à tiroir. Ça n'est pas que le sujet de la laïcité. Il y a un sujet féministe, il y a un sujet de communautarisme dont on a parlé tout à l'heure. Il y a de multiples débats qui expliquent que c'est plus que beaucoup d'autres signes, un signe qui crée le débat. Mais je dirais que, pour en revenir à l'affaire de Creil de 1989, puisque c'est là que débute votre deuxième partie d'émission. En fait, quelque part, ça a obligé à ressortir un bouclier qui prenait un peu la poussière, parce que finalement, la laïcité en France a été beaucoup construite contre l'Église catholique, la puissance politique de l'Église catholique. Ça, pendant... c'est notre héritage. Et donc, c'était quelque chose que l'on connaissait, puisque ce sont des siècles d'histoire, et donc il y a eu de grands débats, il y a eu de grandes controverses. Elle n'est pas devenue une controverse à partir de 1989. Elle a été l'objet d'intenses débats pour limiter le pouvoir politique, les prétentions politiques de l'Église catholique, notamment à l'école, puisque entre la Déclaration des droits de l'homme, qui en effet donne dans son article 10 les prémices de la laïcité, et la loi de 1905 dont nous allons fêter les 120 ans, il y a aussi l'école publique gratuite, obligatoire et laïque de Jules Ferry, qui est quand même un des premiers fondements et un des premiers piliers de notre laïcité. Mais jusque-là, en effet, c'était quelque chose que, quelque part, la France connaissait bien, lutter contre les prétentions politiques de la très puissante Église catholique, elle connaissait. Quand tout d'un coup, le bouclier sert à autre chose, eh bien, on est un peu démunis. Il y a quelque chose de l'incompréhension, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'un coup, ça concerne une minorité et non pas la majorité puissante. Tout d'un coup, ce sont des prescriptions, des débats auxquels nous ne sommes pas habitués. L'islam est quand même assez récent en France, donc les gens n'étaient pas forcément à l'époque. D'ailleurs, on disait le voile dit islamique, parce qu'il y avait des débats sur savoir est-ce que c'était vraiment une prescription ou pas de l'islam. Et je crois qu'ils ont toujours lieu aujourd'hui, ces débats. Et donc, si vous voulez, ça nous a mis un peu de temps, je pense, c'est normal, de recomprendre la laïcité, parce que tout d'un coup, les coups de boutoir n'arrivaient pas forcément des mêmes personnes, ni du même organisation. L'Église, c'est quelque chose, c'est organisé, il y a quelqu'un qui donne des ordres, etc. Là, tout d'un coup, on ne savait pas. Vous savez, ce qui met fin à la grande polémique de 1989, on l'a oublié. C'est pas la loi, c'est pas M. Jospin, dont on a vu qu'il était dans une espèce de nini un peu compliqué. C'est le roi du Maroc qui dit maintenant, ça suffit, on arrête. Vous enlevez le voile. Donc, c'est quand même tout d'un coup le surgissement à nouveau d'une question dont on n'avait plus l'habitude de parler, et on est 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard. Je trouve que c'est normal, compte tenu des changements de la société, des changements des tensions qui la traversent, etc., que nous ayons eu mis un peu de temps à nous réajuster, à récomprendre, donc, d'où la commission Stasi, d'où la nouvelle loi en application du principe de laïcité sur les signes ostentatoires à l'école. Mais en même temps, je trouve qu'on le fait, et c'est là où j'aurai peut-être une divergence avec M. Policar, on continue de le faire avec une clairvoyance, un humanisme, et je pense que l'instrumentalisation principale vient de ceux qui disent maintenant, malheureusement, notamment à gauche, alors que ça a été un principe de gauche, que la laïcité est le fauné du racisme. Ce n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai, ça ne le sera jamais, c'est même plutôt l'inverse du racisme. C'est la définition d'un commun, d'une communauté, la seule qui vaille, la communauté nationale, dans laquelle on se marie, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion, dans laquelle on est citoyens ensemble, et c'est l'inverse des barrières.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Que voulez-vous faire ? Voulez-vous une loi de large neutralité, susceptible d'assurer la pacification des esprits, et de donner à la République, en même temps que la liberté de ses mouvements, une force plus grande ? Si oui, faites que cette loi soit franche, loyale et honnête. Faites-la telle que les églises ne puissent y trouver aucune raison grave de bouder le régime nouveau, qu'elles sentent elles-mêmes la possibilité de vivre à l'abri de ce régime, et qu'elles soient, pour ainsi dire, obligées de l'accepter de bonne grâce, car le pire qui pourrait arriver, ce serait de déchaîner dans ce pays les passions religieuses.
Nous entendons, non pas la voix, mais un texte d'Aristide Briand, rapporteur de la loi de séparation des églises et de l'État à la Chambre des députés le 20 avril 1905, et c'est un extrait de l'émission « Les chemins de la connaissance » de 2003. Donc nous continuons ce voyage dans le temps, nous arrivons à 1905, pardon, pour le lapsus, c'est-à-dire au moment où cette loi s'introduit dans la République française. Et Alain Policar, dans votre livre « Laïcité, le grand malentendu », vous rappelez que dès 1905, parmi les défenseurs de cette loi, il y avait déjà des clivages entre ce que vous appelez une laïcité de contrôle de l'Église par l'État, défendue par Émile Combes, par Maurice Allard, contre une idée de laïcité de pacification, défendue par Jaurès, Clémenceau et Briand que nous entendons. En quoi consiste exactement ce clivage en 1905 ?
Oh, il est fondamental parce que nous le vivons toujours. Et je voudrais revenir quand même, si vous le permettez, sur le fait que Henri Pénarvis choisisse Régis Debray. Et précisément, puisque nous parlons de 1905, moi je choisis Jaurès. Et Jaurès, lors de son discours au lycée de Castres, le 30 juillet 1904, écrit la chose suivante. « Si la démocratie fonde, en dehors de tout dogme religieux, toutes ses institutions, tout son droit politique et social, si elle ne s'appuie que sur l'égale dignité des personnes humaines, appelées au même droit et invitées à un respect réciproque, démocratie et laïcité sont identiques. » Et donc, moi, je choisis clairement la laïcité plutôt que la République, puisque précisément, le mot de République est un des mots les plus galvaudés qui soit. Qui ne se réclame pas de la République entre LR, Trump et d'authentiques républicains? Et puis, il y a les traditions républicaines fort différentes. Je citais Cécile Laborde, j'aurais pu citer également Jean-Fabien Spitz, ou j'aurais pu citer également Philippe Petit et bien d'autres encore, qui n'ont pas la même vision de la République que les républicains français. Donc il y a un débat au sein de la République. Moi, je ne suis pas multiculturaliste, parce qu'on pourrait croire que je le suis compte tenu de ma défense d'un commun homme raisonnable. Je suis un républicain critique de cette tendance-là. En ce qui concerne la question de la tolérance, qui a été aussi évoquée et qui est véritablement un point central, lorsque Henri Pénarvis parle de tolérance à l'ancienne, il a évidemment raison. La tolérance est une condescendance. On tolère l'erreur de l'autre d'un point de vue de supériorité. Mais depuis, à l'époque moderne et depuis John Stuart Mill, la tolérance est une vertu politique. Et ça veut dire quoi, la tolérance ? Ça ne veut pas dire approuver. On ne tolère pas ce qu'on approuve. Ça n'a même strictement aucun sens. C'est pas au philosophe qu'il est que j'apprendrai que la tolérance suppose au contraire la désapprobation préalable. Donc la question du voile a souvent été très mal posée, parce que bien souvent, ceux qui toléraient, ceux qui ne voulaient pas qu'on légifère sur cette question-là, ont été considérés comme des partisans du voile, ce qu'ils ne sont absolument pas. Et je vais défendre Jospin, mais au-delà de Jospin, le Conseil d'État, qui en novembre 89, saisi précisément par Jospin, rend un avis très nuancé en disant « il faut répondre au cas par cas ». C'est ce que le rapport Stasi met en cause, disant « il faut une loi ». Loi que Chirac avait d'ailleurs décidée avant même que le rapport Stasi ne donne ses conclusions. Mais de ce rapport Stasi, on ne retient que cette loi sur les signes ostensibles d'ailleurs. Je n'ai pas très bien compris d'ailleurs la différence entre ostentatoire et ostensible. J'ai cherché dans les dictionnaires, mais je n'y parviens pas. Donc sur les signes ostensibles, il se trouve qu'on aurait pu faire autrement, me semble-t-il, que cela. Parce que ce qui est en cause, c'est le fait de... C'est l'assiduité, si vous voulez, aux enseignements de l'école de la République. L'école de la République dispense la science telle qu'elle se fait à un moment donné, et on n'a pas à sélectionner ses savoirs. On n'a pas à dire « je ne vais pas en cours de sciences naturelles, enfin dit SVT aujourd'hui, parce que la théorie de l'évolution ne me convient pas. Je ne vais pas en cours d'histoire parce qu'on y enseigne la Shoah ou la colonisation. Je ne vais pas en cours d'éducation physique parce qu'il y a mixité. » Tout ça devrait être mis en avant, pas au détriment, mais à la place de la question du voile. Et on toucherait alors non seulement des musulmans prosélytes, mais on toucherait aussi d'autres religions qui ont envie de faire de l'État, de l'école, l'étalage de leurs convictions. Donc, il n'y aurait pas cet aspect discriminatoire. Je cite ça parce que lorsque j'ai été renvoyé du Conseil des sages, j'ai été reçu par Nicole Belloubet et je lui ai dit ça. Et elle m'a répondu avec beaucoup de gentillesse, dites-le plus souvent. Alors je le dis aujourd'hui, il me semble que l'aspect discriminatoire tel qu'il est vécu, je ne dis pas que la loi 2004 est discriminatoire en elle-même, des tas de gens ont considéré qu'elle ne l'était pas, mais au fond, elle est mal comprise, elle est considérée comme telle. C'est ça le vrai hiatus, c'est qu'il y a des jeunes qui voient la laïcité non pas comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire comme quelque chose qui permet la coexistence des libertés, mais comme quelque chose qui restreint les libertés.
Je me demande si le désaccord qu'il y a entre vous, Alain Policard, et vous, Henri Pénard-Ruiz, ne remonte pas aussi à une question sur les soubassements théoriques de la laïcité. Dans votre dictionnaire amoureux de la laïcité, il y a des entrées, l'une qui est consacrée à Spinoza, l'autre à John Stuart Mill, l'autre par exemple aux sceptiques, que vous décrivez les trois, et plus parce que les sceptiques sont nombreux, comme des ancêtres intellectuels de la laïcité. Alors restons juste sur l'exemple de Spinoza, sa lutte contre la superstition, sa lutte contre les religions au nom d'une forme de rationalisme. Est-ce que vous pensez que la laïcité s'inscrit dans la continuité de cette lutte philosophique-là ?
Par rapport à Spinoza, assurément. Je tiens Spinoza comme étant sans doute un des plus grands penseurs de la laïcité. Son admirable traité de l'autorité politique et religieuse a fait de lui effectivement quasiment le précurseur de la laïcité. On pourrait citer aussi, après, Locke, sauf que Locke, il considérait qu'il fallait être tolérant avec tout le monde, sauf avec les athées, puisqu'ils ne croient pas en Dieu, donc ils ne peuvent pas tenir parole, comme il disait, et les papistes, parce qu'ils sont à la solde d'une puissance extérieure, les papistes, c'est-à-dire les catholiques. Bon. Mais revenons à un point qui me paraît important. Qu'est-ce qui a produit le sentiment de stigmatisation ? Eh bien, c'est la paresse, voire la mauvaise foi avec laquelle certains journalistes, certains commentateurs ont parlé de loi sur le voile. Moi, j'ai écrit dans Marianne un article qui s'intitule « La loi sur le voile n'existe pas ». La commission Stasi n'a pas fait une loi sur le voile. La commission Stasi, mue par le désir de soustraire l'école au conflit des prosélytisme, s'inscrit dans le sillage du grand Jean Zay. Jean Zay disait, dans ses circulaires, le grand ministre du Front Populaire, « Il ne faut pas que les querelles des adultes pénètrent dans l'école. » Et il avait interdit, effectivement, tout signe d'appartenance religieuse dans l'école, dans une circulaire, après avoir interdit tout signe d'appartenance politique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'extrême droite battait le pavé de Paris. Bon, donc effectivement... Dans ce sillage de Jean Zay, dans le sillage qui remonte plus haut à Spinoza, qui dit « il faut séparer l'État et l'Église ». Mais il faut aussi rester dans l'universalisme. Ce qui différencie l'affirmation républicaine et laïque de la laïcité, c'est qu'elle est universaliste. Elle est bonne pour tout le monde. Dans un pays laïque, les croyants sont libres, les humanistes athées ou agnostiques sont libres. Il faut le rappeler. Alors maintenant, effectivement, dire c'est une loi sur le voile qui a été faite par la loi de 2004, c'est un scandale absolu. Nous avons bien précisé que c'est l'ensemble des signes religieux qui devaient être bannis de l'école pour faire en sorte que l'école soit un lieu d'études et non un lieu d'affrontement. C'était effectivement ça notre finalité. Et dire loi sur le voile, si on voit, comme les journaux disaient, la loi sur le voile vient d'être votée, j'étais tout à fait indigné en tant que membre de la commission de Stasi, parce que c'est ça qui produit le sentiment de stigmatisation. Pensez à une femme musulmane qui passe devant le kiosque et voit la loi sur le voile. Elle va dire « Mais qu'est-ce qu'on me veut à moi ?» Alors que si elle voyait la loi sur l'ensemble des signes religieux, et nous avions cité trois signes, les trois monothéismes, le voile, la kippa et la croix charismatique. C'était une façon, effectivement, universaliste de dire « L'école doit être soustraite à tous les prosélytismes religieux ». C'est tout à fait important. Restons dans une logique universaliste. Le RN, lui, n'est pas universaliste. Il est différentialiste. Demandez à Mme Le Pen si elle serait d'accord pour abroger le Concordat ou la loi de Bré qui finance, qui assure le financement public des écoles privées religieuses. Elle dira non, c'est notre tradition chrétienne. Donc elle procédera à une affirmation différentialiste, alors que la laïcité est universaliste.
Mais justement, c'est intéressant parce que ce retour vers le passé fait qu'on fait tout le temps des liens entre là pour parler de la loi de 1905 et les clivages actuels pour revisiter aussi le passé. Anne Rosenchère, justement, cette loi de 1905, est-ce qu'il faut la voir, je caricature un peu les termes du débat, comme l'armistice politique d'une guerre qui a duré plus d'un siècle entre la République et l'Église, ou est-ce qu'il faut la voir comme la continuation d'un processus de sécularisation des principes religieux, ou voire de libéralisation philosophique et universaliste?
C'est l'organisation par la loi de principes, d'un idéal même, mais c'est cette loi ne fait que... ce que je veux dire par là, c'est qu'une des façons de réduire la laïcité est de dire c'est la loi de 1905, rien que la loi de 1905, que la loi de 1905. C'est pas vrai, la loi de 1905 est très importante, fondamentale, elle permet encore aujourd'hui d'être un repère quand on a des doutes sur telle ou telle chose, etc. Mais ça n'est que quelque chose qui organise, qui sanctifie. Enfin, qui sanctifie. Le terme n'est vraiment pas bon pour ça, mais qui organise. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, les gens en font une lecture, ne comprennent pas. C'est-à-dire que, par exemple, ça n'est pas une loi qui fait table rase du passé. C'est une loi qui gèle les choses telles qu'elles sont. Notamment, on n'a pas, après la loi de 1905, on n'est pas allé enlever les calvaires sur les routes de campagne, etc. C'est une loi qui dit, désormais, voilà comment ça va se passer.
Merci à vous trois pour cet échange passionnant. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé l'émission, à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. Vous pouvez la retrouver sur le site et l'application de Radio France. À bientôt.